La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonsoir à Paris. Nous sommes le jeudi 11 juin et franchement, l'actualité aujourd'hui ressemble à un groupe WhatsApp familial. Ça part dans tous les sens, personne ne comprend tout, mais tout le monde parle fort. Côté football, les supporters sont déjà en sueur, alors qu'il fait seulement 19 degrés. Les coachs promettent du jeu offensif, ce qui veut dire 11 joueurs qui courent derrière un ballon pendant 90 minutes avant un vieux 0-0 criminel. Pendant ce temps-là, dans les bars, des experts tactiques expliquent calmement que le problème du football moderne, c'est ceci ou cela, alors qu'ils ont eux-mêmes du mal à gérer un caddie dans un supermarché. Le fait du jour maintenant, ce sont les transports parisiens. À Paris, réussir un trajet sans retard est devenu plus rare qu'un kebab à Saint-Héro. Entre les travaux, les annonces incompréhensibles, entre les gens qui bloquent la porte pour attendre que quelqu'un prenne le métro, et qui est devenu un sport extrêmement homologué. Mais malgré tout cela, Paris vit, Paris râle, court, klaxonne, s'énerve, puis recommence demain. Vous êtes sur Radio Campus Paris, la soirée ne fait que commencer. Au sommet de l'actualité ce jour, mesdames, messieurs, il y a un package que nous avons préparé pour vous parce que ce soir, ça va être fantastique. Aujourd'hui, nous allons démarrer bien évidemment sur les chapeaux de roue en étant très au parfum de tout ce qui se passe l'actualité. Pendant ce temps, ça tourne dans le monde entier et bienvenue à Radio Campus. Radio Campus, c'est l'émission qui émet depuis Paris, c'est les 93.9 et nous allons bien évidemment vous proposer le sommaire de la matinale de ce jeudi. Nous allons recevoir, bien évidemment, Raphaël Chélul-Azon, directeur de Ensemble contre la peine de mort. Il sera interviewé par Vladimir. Le Zoom sera conduit par Laetitia Courant, qui va nous parler avec ses invités de ce qui se passe du côté du musée du Quai d'Orsay, du Quai Branly, Jacques Chirac, et avec, bien évidemment, comme sur l'autre fauteuil de l'invité, William Bagla, conseiller du président du musée. Et Fabien va assurer le flash info et bien évidemment, ce sera au gouverneur, Violette Ménoret sera au gouverneur de la chronique libre. La chronique actuelle portera la signature de Finn et Joey Fantomas sera à la réalisation. On commence avec l'interview aujourd'hui. Nous recevons bien évidemment Raphaël Chénul-Azon, directeur de Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Vladimir, c'est à toi.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Raphaël Chénul-Azon, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de l'ECPM, donc de l'association Ensemble contre la peine de mort. Alors on a une vingtaine de minutes ensemble ce soir pour parler de la peine de mort dans le monde, de son évolution, de ses enjeux et notamment du grand congrès que vous organisez fin juin et tout début juillet à Paris pour parler des enjeux contemporains et de lutte contre la peine de mort. Merci d'être avec nous ce soir.
Merci, bonsoir Vladimir.
On va commencer un peu dans le dur du sujet, d'abord en parlant de dans le contexte actuel où l'actualité a fait parler notamment de la peine de mort par rapport aux lois adoptées dans l'État d'Israël par rapport à la répression très très dure qui sévit en Iran. On va d'abord parler de votre association Ensemble contre la peine de mort qui a été créée en 2000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où elle vient, quelles sont ses actions et quels sont ses modes d'action, quels sont ses objectifs?
Bah, ECPM, vous l'avez dit, est né il y a 25 ans, 26 ans maintenant. On est né d'une initiative militante. C'est pas des avocats qui ont créé ECPM, c'est plutôt des journalistes. On est là chez les journalistes. Ici, des journalistes, des gens de l'édition qui un jour se sont révoltés. C'était un cas particulier aux États-Unis, encore un de plus. Il s'appelait Odell Barnes. Et puis, révoltés par l'abomination de la peine de mort, ils ont écrit un petit livre, un pamphlet, comme on dit aujourd'hui, et ils l'ont adressé aux candidats et au président américain. C'était à l'époque de l'élection de George W. Bush, le fils. Et ce pamphlet est devenu une pétition. Et cette pétition a été signée, a été soutenue par Télérama, Marie Claire, Ouest France. Et on a réuni, alors je dis on, je n'y étais pas, hein, mais notre organisation a réuni 500 000 signatures. Je peux vous dire aujourd'hui, quand on est à 5 000 signatures, on est content. Donc je ne sais même pas comment ils ont fait. 500 000 signatures, c'était extraordinaire. C'était les tout débuts d'Internet, donc 500 000 signatures, oui. Mais aussi 500 000 emails. Où on n'avait peut-être pas 500 000 emails, mais en tout cas de nombreux emails, un tout petit peu d'argent, des dons, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et après, Catherine Deneuve, Bianca Jagger, l'ex-femme de Mick Jagger, qui viennent avec nous. On va remettre toutes ces signatures à l'ambassade des États-Unis, place de la Concorde, à côté du Crillon. Et là, après, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de cette signature, de l'énergie, de la dynamique Et en fait, bah, on s'est dit, on va essayer de la donner. Le CBM n'était pas encore créé. On va la donner à une organisation. Il n'y en avait pas. On va la donner à l'international. Et il y avait très peu de choses qui se faisaient. Et
au donc, niveau international, pour
l'abolition. Ouais. Vraiment, c'était sur l'abolition. Et là, ils se sont dit, bah, on va créer... Il n'y a rien. Eh bah, ben, créons. Lançons-nous. Et on a lancé cette initiative. Encore une fois, le « on » ne m'inclut pas, mais je m'y inclus.
Vous êtes arrivé un peu plus tard.
Voilà, je suis depuis 2009, moi, donc j'ai rejoint plus tard. Mais c'est une aventure assez extraordinaire des débuts, incroyable, osée, et surtout qui a montré qu'avec pas grand-chose, on bâtit on gravit des montagnes et on bâtit des temples et des buildings. Très vite, Robert Badinter est venu. Très vite, on a été sous son parrainage. Il a soutenu l'initiative et on a lancé le premier congrès mondial contre la peine de mort. En fait, très vite, on s'est dit, comment on va s'appeler ? On va s'appeler Ensemble. Parce qu'on n'avait qu'une envie, c'était de mettre ensemble les acteurs. Les fondateurs n'étaient, encore une fois, pas des avocats, pas des spécialistes. Et la mise ensemble, la mise en réseau, très vite, on a réussi à mobiliser. Ce congrès mondial a eu lieu à Strasbourg, au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Et ça a pris, la mayonnaise a pris. Et je me rappelle avoir vu, alors je ne me rappelle pas, mais j'ai vu, j'ai eu des témoignages. On avait eu RFI qui avait mis des bandeaux publicitaires sur ce congrès mondial. Et des militants en Congo, Kinshasa, avaient entendu sur RFI, avaient pris eux-mêmes leur billet d'avion, étaient venus à Strasbourg. Juste parce que c'est pour eux, c'était un engagement fondamental. Et c'était des avocats. Et ces avocats sont encore aujourd'hui nos partenaires. Ce sont des militants de la première heure. Et qui aujourd'hui, ce sont, je pense, à Maître Lievan Gonji et le Robert Badinter congolais. C'est celui qui porte et qui porte l'abolition dans son pays depuis ces 25 dernières années. Et ça, c'est grâce à cette dynamique.
Et 26 ans après, du coup, aujourd'hui, vous rassemblez plus de 90 pays. C'est ce que j'ai pu voir. Vous organisez des congrès régulièrement. Et vos missions sont donc de rassembler, de fédérer, de renforcer l'ensemble des acteurs et des actrices pour œuvrer pour un changement politique en vue d'aboutir localement et globalement à l'abolition de la peine de mort. Est-ce que c'est quelque chose qui a marché dans certains pays ? Est-ce que c'est quelque chose dont l'engouement n'a cessé de croître depuis ces 26 ans ?
Alors moi, je suis directeur général depuis 2009, ça fait quelques années maintenant. Je n'ai jamais vu une cause des droits humains autant avancée. C'est ce qui me rend optimiste. Et je n'ai jamais vu une ONG ou les ONG autant avoir d'influence sur les événements et le cours des événements. Pourtant, l'abolition, il faut bien avoir à l'esprit que s'il y a abolition, c'est via une décision politique.
Il ne peut pas y avoir abolition juste par principe.
C'est un président, un ministre, une ministre de la justice, un parlement qui va porter. Mais pour cela, en fait, l'influence de la société civile, elle est fondamentale. Et l'influence de mon organisation, la CPM, est fondamentale au niveau mondial. Et on est une petite ONG française, mais en fait, on est la plus grande ONG sur l'abolition de la peine de mort dans le monde, la plus reconnue, pas du grand public, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire grand public. Je ne sais pas quelle taille il a, ce grand public.
Et plutôt au niveau des réseaux politiques,
mais
médiatiques.
Des réseaux politiques, des médiatiques, des acteurs de terrain, des juristes, des avocats, des barreaux d'avocats, et des militants des droits humains dans chacun des pays. Et oui, pour répondre à ta question, Vladimir, oui, des pays ont aboli sous l'impulsion de notre action. Je pense au Tchad, où très clairement l'abolition s'est faite par notre action. En Burkina Faso, alors malheureusement, c'était en 2016 l'abolition. Malheureusement, là, tout dernièrement, ils viennent de rétablir la peine de mort. C'est un recul. On en parlera. Mais on a aussi en Malaisie, où la Malaisie a mis fin à la peine de mort obligatoire, ce qui était une étape vers l'abolition et qui continue à avancer.
Donc, et du coup, justement, pour revenir sur cette évolution-là de l'abolition de la peine de mort, j'avais écouté une émission dans laquelle tu intervenais en 2011 sur France Culture, où tu parlais dans le sillage de l'abolition de la peine de mort dans l'Illinois, un des États des États-Unis, sous l'ère Obama. Tu parlais quand même d'un grand espoir, notamment sur l'Afrique, qui était un peu en fer de lance des abolitionnistes contre la peine de mort à cette époque-là. Et tu as été réinvité il y a quelques semaines dans la même émission sur France Culture, où là, le sujet était quand même un peu moins positif. C'était quand même un sujet un peu plus grave, notamment sur le fond de ce qui se passe en Iran, de ce qui se passe en Israël aujourd'hui, où du coup, il parlait d'un retour en arrière concernant la peine de mort. Est-ce que tu partages ce point de vue? Tu m'as dit que tu étais un optimiste, mais est-ce que du coup, on peut s'inquiéter aujourd'hui d'un retour un peu de bâton par rapport à la peine de mort aujourd'hui?
Oui, l'émission, c'était même lundi dernier, là, donc c'est il y a quelques jours. Non, je reste un optimiste. Le choix éditorial de Culture Monde sur France Culture était de s'intéresser à ces reculs. Et c'est vrai qu'il y a, des reculs, il y a des points de crispation. Et que plus on avance, quoi qu'il arrive, plus on va arriver à ce plafond de verre des pays les plus difficiles, des pays où ça sera de plus en plus dur d'abolir. Néanmoins, je note que malgré ce contexte, malgré la crispation, malgré les crises, malgré les guerres, etc., on a encore des pays qui avancent vers l'abolition. On a encore des pays qui viennent annoncer soit des abolitions de la peine de mort, soit des ratifications de protocoles internationaux. Ce protocole, je ne vais pas revenir sur le détail technique, mais il permet d'empêcher toute réintroduction de la peine de mort.
D'accord.
Si le Burkina l'avait ratifié, il n'aurait pas pu.
Il n'aurait pas pu rétablir la peine de mort.
Et ça, de plus en plus de pays le ratifient. Donc oui, la situation en Iran est catastrophique et est incroyablement horrible. Oui, Israël instrumentalise la peine de mort. Et oui, le Moyen-Orient est en feu et utilise la peine de mort dans une sorte d'échappatoire. Oui, la Chine continue à être totalement opaque et non transparent sur l'application de la peine de mort. Et certains pays, en particulier dans le Sahel d'Afrique, se sont crispés. C'est pas que sur la peine de mort. Le Mali, le Burkina, c'est aussi en termes de démocratie, en termes de la junte au Burkina. C'était un pays extrêmement paisible. Il l'est beaucoup moins, beaucoup plus difficile pour les défenseurs des droits humains locaux. Donc ça se traduit aussi par une crispation. Néanmoins, mon côté optimiste, c'est... Si je prends les États-Unis, par exemple, on va regarder le verre à moitié vide. Il y a Trump, il y a explosion des exécutions en Floride. Normalement, c'était le Texas qui détenait le record. Et là, tout d'un coup, cette année, c'est la Floride. À eux deux, ils ont 100%, quasiment 100% des exécutions à ces deux États. Trump qui annonce qu'il va réintroduire la peine de mort, relancer la peine de mort pour trafic de drogue, qui va vider les couloirs de la mort pour le fédéral, au niveau fédéral. Oui. Faut bien avoir en tête aux États-Unis, c'est qu'il y a 51 États, chaque État a sa propre législation. Et à ces 51 États, faut rajouter la loi fédérale et le niveau fédéral, ce qu'on appelle les crimes fédéraux avec le FBI, mais aussi les crimes militaires, la justice militaire. Donc ça fait deux juridictions supplémentaires. Donc c'est 53 plaidoyers. C'est pas un plaidoyer, c'est 53. Oui, pendant un temps, on pensait que la Cour suprême allait être source
Changement institutionnel au niveau fédéral.
Bon, Trump, dès son premier mandat, déjà à son premier mandat, il a tout verrouillé, c'est foutu pour les 20 prochaines années. Donc là, je vois le verre à moitié vide, évidemment. Mais en fait, si on regarde la société américaine, le soutien à la peine de mort de la société américaine n'a jamais été aussi bas. On a les derniers sondages, c'est 50-50. 50% des Américains sont contre la peine de mort. On l'imaginait pas ça. Il n'y a jamais eu autant de pays, d'États américains qui ont aboli la peine de mort. Donc on est à 23 États américains qui ont aboli la peine de mort et on en est à 15 autres qui ne la pratiquent plus. Donc en fait, c'est une minorité d'États. C'est une minorité même. Il y a eu un rapport qui a montré que c'était même dans les États comme le Texas, c'est une minorité de comtés. On n'est pas égaux au Texas quand on habite dans un comté ou dans un autre.
En fait, la réalité au niveau fédéral, elle se contre pas très bien.
Voilà, merci pour ces échanges. On va pouvoir écouter une musique pour, disons, prendre un peu plus de recul et revenir plus fort.
Que j'avais tes yeux, je t'ai cherché sur tous les visages. Enfin, je regardais dans les cieux un signe, un présage. Silence radio, père étranger, portrait robot te dessiné. Carré, cheveux au vent, sourire discret.
C'était Étrange absence de Marie Batch.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
On est toujours dans ce studio en compagnie de Hazan, le directeur de l'Ensemble contre la peine de mort. On parle bien évidemment de l'évolution de la peine de mort. Moi, je vais me tourner vers Hazan. Alors, quand on parle de peine de mort, on parle également de politique. Vous savez, dans la plupart des pays qui sont sourds, c'est la politique qui généralement gèrent les choses de la cité. Et comme ils sont sourds, il va falloir avoir un levier. Sur quel levier vous appuyez pour pouvoir faire pousser, avancer vos doléances et tout ce que vous voulez?
Les leviers, c'est une bonne question. Ils sont d'abord différents dans chaque pays, même s'ils sont toujours un petit peu les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois faire comprendre qu'il faut du courage politique, il ne faut pas suivre ce que l'on appelle l'opinion publique, parce qu'on y met beaucoup d'imaginaire. Ensuite, souvent, quand on s'appuie sur l'opinion publique pour ne rien faire, c'est qu'on n'est pas très démocratique. Parce que j'ai remarqué par expérience que la plupart du temps, c'était les pays les moins démocrates, les ministres des pays les moins démocrates, qui justifiaient leur inaction par l'opinion publique. Comme par hasard sur la peine de mort, je me rappelle avoir discuté avec le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, qui est la pire dictature d'Europe, et qui jamais ne prend le pouls de son opinion publique sur quoi que ce soit, et, sauf sur la peine de mort. Pareil en Jordanie ou dans d'autres pays comme cela. En Chine, on m'a aussi confirmé qu'ils ne pouvaient pas abolir à cause de l'opinion publique. C'est à peu près le seul sujet sur lequel l'opinion publique aurait quelque chose à dire.
À l'inverse, en 80, quand Badinter avait fait passer la loi d'abolition, l'opinion publique était majoritairement contre cette loi, si je ne me trompe pas. Mais du coup, il l'avait fait pour des raisons humanistes.
Exemple formidable, ce qui s'est passé en 81, parce que Mitterrand, qui avait un peu de sang sur les mains quand il était ministre de la Justice en 58, beaucoup plus tôt, Mitterrand a quand même, dans un fameux débat avec Al-Kabbach et Duhamel, trois jours avant l'élection présidentielle, il a répondu face aux journalistes à cette question-là et qui a fait date dans l'histoire de France, je dirais, dans l'histoire aussi politique. Il a répondu très clairement aux électeurs. Il a dit « Si vous m'élisez, j'abolirai la peine de mort. Je sais que les Français sont contre l'abolition, mais si vous m'élisez, si vous portez, je l'abolirai, parce que dans le fond de ma conscience, le fond de mes croyances, je crois fondamentalement à l'abolition. » Et il a été élu. Est-ce que ça, c'est moins démocratique qu'un référendum où on va faussement demander à une opinion publique qui n'est pas informée, qui va voter sur les émotions du moment, ou qui n'a pas toutes les informations et les données sur la situation? Moi, je crois que c'est beaucoup plus démocratique un chef d'État, un candidat, parce qu'à l'époque, il était candidat, qui annonce ce qu'il va faire et qui est élu, et qui après passe par le processus parlementaire, comme il l'a fait. C'est un exemple même. Le lendemain, le Figaro avait titré en une du Figaro « 69% des Français sont contre l'abolition ». 69%. Il n'y avait que 25% des Français qui étaient pour l'abolition et 5% sans avis. C'était clairement une large majorité pour la peine de mort. Et pourtant, il a aboli. Et pourtant, les Français aujourd'hui, et pourtant, on a mis au Panthéon l'année dernière, c'est mon ami Robert Badinter, et c'est pas tous les députés qui ont appuyé la peine de mort et qui criaient vengeance. C'est parce que l'histoire retient ces grandes avancées humanistes. Elle retient pas les petits gens qui s'accroche à ces vieilleries.
Et est-ce que, du coup, pour en revenir à ces leviers d'action que vous développez avec votre association Ensemble contre la peine de mort, est-ce qu'il y a notamment, vous passez par les congrès que vous organisez régulièrement, vous en avez organisé plusieurs au fil des années, dans différentes régions du monde, et là, il y en a un qui arrive à Paris, du 30 juin au 2 juillet, si je ne me trompe pas, donc c'est un congrès que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce congrès-là? Pourquoi vous l'organisez? Quels sont ses objectifs?
Alors, d'abord, c'est un congrès ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Vous êtes invité, il n'y a pas besoin d'être invité, il y a juste besoin de s'inscrire. Il est gratuit, ouvert, on attend plus de 1500 personnes, et ça sera le 30 juin et le 1er juillet à la Maison de la Radio, et le 2 juillet à l'Hôtel de Lacay, à l'Assemblée Nationale. C'est un congrès qui est à la fois tourné vers les acteurs de l'abolition, les juristes, les avocats, les journalistes aussi, les magistrats, les parlementaires, les militants des droits humains dans chacun des pays. On attend de plus de 100 pays représentés. On a vraiment des très grandes délégations de tous les pays. Là, j'étais au téléphone avec un militant du Kenya. Il y en a de Somalie, des pays difficiles, de Chine, du Japon. Le Japon, on oublie trop souvent, a la peine de mort et l'applique. Donc voilà, typiquement, pour faire vivre la question de l'abolition, les leviers qui sont aussi incroyables, c'est que le Congrès nous permet d'inviter des politiques. On va avoir des ministres qui vont être présents. Nous espérons qu'ils vont pouvoir porter des annonces d'abolition ou des annonces de pas positifs.
Donc, je crois que la soirée de clôture, il y aura Gérald Darmanin notamment qui va inaugurer un peu la soirée de clôture, qui va intervenir aussi.
La soirée de clôture sera ouverte par la présidente de l'Assemblée nationale parce que c'est elle qui nous accueille. Il y aura Darmanin et d'autres ministres étrangers qui seront là. Ça sera surtout aussi l'occasion de remettre le prix Robert Badinter et un certain nombre d'autres prix parce que c'est l'occasion de célébrer la société civile et ses acteurs. Au Congrès, vous y trouverez quoi ? Vous trouverez des échanges avec des... Si vous êtes intéressé par le droit, si vous êtes intéressé par les droits humains, vous rencontrerez des gens qui vous parleront, des défenseurs sur le terrain. Vous y rencontrerez aussi, et c'est ça qui est assez incroyable, des anciens condamnés à mort. Il y aura plus d'une dizaine, presque une quinzaine d'anciens condamnés à mort ou leur famille, la famille de condamnés à mort de certains qui ont été exécutés, qui viendront témoigner, rendre palpable, vivant, ce que c'est que la peine de mort. C'est pas seulement des chiffres, c'est pas seulement... quelque chose de très froid sur des situations juridiques, c'est aussi
c'est
des vies humaines.
Et des vies humaines.
Et ça, vous pourrez les rencontrer, vous pourrez discuter avec eux. Ça, c'est ça aussi qu'on y trouvera dans le Congrès. En termes de levier, c'est aussi, on va travailler les stratégies de demain, pays par pays ou région par région. Comment on aborde la question de la peine de mort dans les pays musulmans ? Comment on fait quand on est en Asie ? Comment on travaille ? Est-ce qu'en Asie, on peut avoir une approche totalement régionale ou est-ce qu'il faut travailler pays par pays, Malaisie, Singapour, Chine ou Japon. Comment on travaille avec l'ONU ? Et pour beaucoup, je sais, beaucoup sont désespérés. L'ONU ne sert à rien, l'ONU est une coquille vide. Ben moi, à ECPM, sur la question de la peine de mort, je vous dis que l'ONU m'a aidé et nous sert au quotidien. Je sais que l'ONU a permis ces 20 dernières années, et ECPM n'est pas totalement absent de ce plaidoyer, a permis d'installer la question de la peine de mort comme un droit humain. Pour beaucoup d'États, la peine de mort, c'est juste une souveraineté des États à appliquer la loi, la législation, et ils ont le droit, c'est dans leur loi, mêlez-vous de vos affaires. Et en mettant la question de la peine de mort comme un objet de torture, comme un objet, un droit humain à part entière, eh ben, on met à mal cette justification des États et de leur souveraineté.
C'est-à-dire que là, à terme, peut-être que la peine de mort pourrait être considérée comme étant un crime contre l'humanité, par exemple, à l'avenir, si jamais vous arrivez
nous,
à faire passer...
Nous, on est en train de porter très exactement ce sujet. Il sera débattu pendant le Congrès, d'ailleurs, ce sujet, notamment pour des pays comme l'Iran, comme la Chine ou comme la Corée du Nord. Des pays qui exécutent en masse, depuis les 40 dernières années, qui visent principalement des minorités ethniques, des minorités religieuses, des minorités de toutes sortes, qui ont des pratiques en plus, en dehors de toute de torture, de pratiques en dehors de l'état de droit, aucun procès équitable, à la fin... On peut se poser la question de est-ce que finalement, quand on additionne toutes ces exécutions, l'année dernière, c'était au moins 1639 exécutions en Iran. Cette année, on est reparti sur des chapeaux de roue. Ça fait dire qu'en 10 ans, l'Iran a pu exécuter plus de 20, 30, 40 000 personnes. Ça fait du monde. Hein.
Et en plus du coup de la société civile, des avocats, des journalistes, j'ai vu qu'il y avait aussi une programmation culturelle qui était proposée, parce que la culture peut permettre d'être un grand vecteur aussi de mobilisation contre la peine de mort. Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple de quelques aspects culturels qui vont entourer cette grande manifestation ?
Alors il y en a déjà qui sont déjà visibles dans Paris, et on a mis une expo sur les grilles de l'Hôtel de Ville, une expo des visages justement de ces grands témoins qui seront présents, d'ailleurs quasiment tous au Congrès mondial, pour permettre de personnaliser, pour identifier un peu ce que c'est que l'abolition de la peine de mort. Et on a fait aussi un podcast que vous trouvez sur tous les télécharger sur Spotify et autres. Ce podcast est aussi un parcours itinérant dans Paris des lieux. Parce que Paris a eu la peine de mort chevillée au corps, la France a eu la peine de mort chevillée au corps, mais Paris en particulier, quand on est à la place de l'Hôtel de Ville, on oublie qu'on était place de grève, là où avait lieu la majorité des exécutions sous la Révolution française. Juste à côté, là, à deux pas des studios, ici, c'est la place des Vosges, Alors, il se trouve que c'est aussi le musée Victor Hugo, le plus grand abolitionniste, notre maître à tous, mais c'est aussi une place d'exécution majeure. Au but de Chaumont, on avait des potences de 30 mètres de haut où on exposait les corps, et même quand ils avaient été tués en centre-ville, on les exposait là-haut, au but de Chaumont. À l'époque, ce n'était pas encore les limites territoriales de Paris quand on était au Moyen-Âge. Donc, vous avez déjà ça, mais on aura aussi des expositions. On travaille avec le Cartooning for Peace sur les dessins du théâtre. On a aussi des peintures d'anciens condamnés à mort qui seront présentées. Je pense qu'il y aura une belle soirée le 1er juillet à la Maison de la Radio.
Super.
Sur laquelle vous pourrez assister et qui feront sentir émotionnellement l'abolition.
Il nous reste une toute petite dernière minute. Est-ce que vous pouvez juste donner quelques informations sur où les gens peuvent s'inscrire ? Comment est-ce qu'ils peuvent voir toutes les informations pour accéder à ce
grand congrès ? Ultra simple. Sur le site ecpm.org, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez télécharger une application sur l'Apple Store ou Google Store. C'est gratuit, mais c'est sur inscription. Donc, il faut télécharger l'application, c'est mieux. Parce que vous avez les notifications, vous pourrez être tenu informé. Ou sur le site ecpm.org, c'est gratuit. Et c'est super.
Merci infiniment, Raphaël Chenu-Lazan. Je rappelle que vous êtes directeur général de Ensemble contre la peine de mort. N'hésitez pas à vous rendre au congrès qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet à Paris.
Voilà, merci Raphaël. Merci à vous également, Vladimir. Maintenant, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Tout de suite l'essentiel de l'actualité avec notre Flash Info. Le Flash Info, c'est avec toi, Fabien.
Merci, bonjour. Et donc on commence tout de suite avec la France, avec l'affaire Liana. 150 associations appellent à manifester chaque lundi devant les tribunaux et le ministère de la Justice pour réclamer une loi intégrale contre les violences. Les associations exigent la mise à l'agenda immédiate d'une loi cadre intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dotée de moyens conséquents. Une pétition en ligne réclamant cette loi intégrale rassemblait mardi plus de 200 000 signatures. France toujours. L'amendement sur une mesure permettant aux auteurs de résilier leur contrat, réclamé depuis le limogeage controversé du patron de la maison d'édition Grasset, n'a pas été adopté. À part cet amendement, la proposition de loi relative au contrat d'édition a été adoptée sans difficulté. États-Unis. La Coupe du Monde débute jeudi soir à Mexico, élargie à 48 équipes contre 32 en 2022, et les prix des billets s'envolent. C'est un mondial XXL qui s'ouvre jeudi 11 juin au soir avec la rencontre Mexique-Afrique du Sud à l'Estadio Azteca de Mexico. Trois pays hôtes, les États-Unis, le Mexique et le Canada, une durée record de 39 jours contre 29 au Qatar en 2022 et 48 nations représentées, 16 de plus que lors de la précédente édition. États-Unis toujours. Pour le deuxième jour consécutif, les États-Unis ont bombardé l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi. Donald Trump accuse Téhéran de tergiverser dans les négociations de paix. L'Iran a répliqué en frappant des bases américaines dans la région et attaque au portefeuille des Américains en refermant le détroit d'Ormuz. Et pour terminer, sport. Roland Garros 2026, Alexander Zverev, la délivrance et la fin des désillusions pour un champion à l'image controversée. L'Allemand a décroché son tout premier titre en Grand Chelem face à Flavio Cobolli, dimanche à Paris. La récompense de la persévérance au bout d'un chemin tortueux qui fait de lui le deuxième plus vieux premier vainqueur en grand chelem de l'histoire, après Goran Ivanišević, titré à Wimbledon en 2001, à presque 30 ans.
Merci pour ce regard de l'actualité qui, de Paris à Washington, jusqu'au terrain de sport, continue de faire battre le rythme du monde. Maintenant, écoutons Charles Dolley, Adieu la nuit.
Trouver la limite pour disparaître.
Retour dans ce studio, nous allons maintenant parler de la chronique Actu.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Au lendemain d'une canicule à la précocité et l'intensité inédite, tout se passe comme si cette chaleur proprement monstrueuse était devenue un fait d'actualité comme un autre. Et pour cause, il y a mille et un autres faits qui aussitôt lui ont repris la main. Le génocide à Gaza, la guerre en Iran ou encore le meurtre de Liana, autant d'événements actuels par excellence qui méritent notre attention. Le piège de la saturation en actualité est maintenant bien connu. Comme un cheval à qui on aurait mis des œillères, nous sommes assaillis par des faits qui disparaissent de notre champ d'attention aussi rapidement qu'ils y sont apparus. Jamais nous ne sommes ainsi en mesure de prendre la mesure historique de ce qui nous arrive. Finalement, nous sommes enchaînés à un dangereux présentisme dont les chaînes d'infos en continu sont un sinistre exemple. En même temps et à l'inverse, quel bien rare que l'histoire et le temps qu'il exige. Autrement dit, quel oisif privilège de ne pas avoir à se soucier de sa condition matérielle et existentielle pour s'amuser de fouiller des temps révolus pour éclairer les nôtres. Celles et ceux qui s'y sont attelés l'ont sûrement fait à mauvais escient. Revenant de leur pérégrination historiographique, les bras pleins de grands récits, tous plus lumineux les uns que les autres, on a heureusement fini, avenir morose oblige, par ne plus les croire. Avec l'eau du bain du progrès, on a jeté le bébé de l'histoire. Alors c'est peu dire que nous autres les humains du XXIe siècle avons un problème avec l'histoire. Jamais n'en avions-nous eu autant besoin, mais jamais n'en avions-nous été autant dégoûtés. Simplement, si on enlève les œillères pour mieux encaisser les secousses de l'actuel, peut-être remarquera-t-on qu'entre le meurtre de Liana, le génocide à Gaza et une canicule exceptionnellement précoce, il y a un intrus. À bien y regarder, les températures records de la fin du mois de mai relèvent de tout sauf de l'actualité. Elles participent d'un temps infiniment plus inactuel que celui de nos tambouilles humaines vieilles d'à peine 10 000 ans, à savoir le temps de la Terre elle-même. Faut-il redire que le capitalisme, associé à l'impérialisme et au patriarcat, a provoqué un effondrement écologique sans précédent ? La prédation conjointe de l'humain et de la nature a fini par nous précipiter dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Dès lors, toute catastrophe naturelle se produit et se produira au croisement de l'extrême urgence humaine et du temps profond géologique. Alors, si on avait toutes les bonnes raisons de se méfier du drapeau blanc de l'histoire, rien n'est moins légitime en temps anthropocénique, et il faudra s'accommoder du paradoxe suivant. Face à l'urgence la plus angoissante de l'histoire de l'humanité, il nous faut néanmoins faire le pari de l'histoire qui nous hante notre dos pour réfléchir à comment nous en sommes arrivés là. Qui sommes-nous, les êtres humains, si à travers l'histoire de nos dominations, nous avons été capables d'affecter jusqu'à une planète entière ? Surtout et ensuite, que faire si l'on ne peut plus promettre un avenir toujours plus radieux, mais si l'on ne veut pas pour autant s'avouer vaincu et prêcher l'apocalypse ? Heureusement, le temps de ma chronique d'actualité est écoulé, je me défile. Entre-temps, bon baiser de la Terre.
Merci Finn. Finn qui dit clairement que le soleil a clairement sauté quelques chapitres. Maintenant, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom, ce soir, nous recevons Angélique Delorme, qui est directrice générale déléguée du musée du Quai Branly, Jacques Chirac et William Bala, conseiller du président du musée. Laetitia, c'est toi qui es assise ce soir sur le fauteuil de celle qui va interviewer.
Oui, bonsoir. Alors, pour ceux qui aiment les musées ou qui sont passionnés de culture d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique, vous connaissez sûrement le musée du Quai Branly à Paris. Eh bien, figurez-vous que ce musée, qui a été fondé par Jacques Chirac, fête aujourd'hui ses 20 ans. Là-bas, parmi les 380 000 œuvres qu'il détient, vous y découvrirez des masques, des statues ou des cultures anciennes. Et bien d'autres objets qui peuvent attirer l'attention d'un large public, puisque depuis sa création, c'est 25 millions de visiteurs qui sont venus au total. Mais le musée du Quai Branly, ce n'est pas seulement un musée de collection, c'est aussi un lieu vivant, puisqu'il a accueilli de nombreuses projections cinéma, des manifestations scientifiques. Et pour parler de ce musée, nous avons ce soir la chance de recevoir la directrice générale et le conseiller discours et plume du président, Angélique Delorme et William Ngala. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Merci à vous, bonsoir.
Alors, on est ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, on a plein de thèmes à aborder. Je voudrais que l'on fasse un bilan sur les 20 dernières années et que l'on parle plus globalement de ce que vous voulez mettre en place pour l'anniversaire des 20 ans. Et dans une seconde partie, je voudrais qu'on se penche aussi sur votre métier pour faire le lien avec, pour faire le lien entre ce Zoom et le format « C'est quoi ton taf ?», qui est un format ici à Radio Campus pour un peu aider les étudiants dans leur parcours d'orientation. Mais peut-être pour commencer sur le musée, Angélique et William, est-ce que vous pourriez nous expliquer la mission ou la vocation principale du musée aujourd'hui ? Est-ce que c'est de créer des ponts entre les cultures, sensibiliser le public ou alors mener des activités de coopération internationale ?
Ce musée du Quai Branly, il a été créé sur une idée politique. C'était de dire que l'Occident n'a pas le monopole du beau, que la diversité des cultures, c'est précisément la richesse du monde et que toutes les cultures sont à égale dignité. Et à partir de ce postulat, on a créé cette institution culturelle, qui est une véritable cité culturelle, qui est un lieu d'exposition, un lieu de collection, mais aussi un théâtre. Vous avez cité aussi le cinéma, c'est un centre de recherche, c'est tout ça à la fois. Et pour résumer tout ce propos, le musée a un slogan, une sorte de devise depuis son ouverture en 2006, qui est « Là où dialoguent les cultures ». Et je pense que c'est vraiment ceci qui définit le plus purement le musée, même 20 ans après sa naissance. C'est-à-dire que c'est un musée qui n'est pas un lieu seulement de conservation, mais c'est un lieu de relation. Et de relation, évidemment, avec les communautés dont on présente dans nos espaces des objets, un lieu de relation avec la communauté scientifique, la communauté de recherche sur toutes les cultures qui nous est donnée de présenter au public parisien, au public français, car nous sommes un musée national, mais aussi au public international qui vient visiter notre musée ou qui voit nos expositions, qui voyage dans le monde entier.
Ok, donc plein de missions. Peut-être pour faire le lien avec ces 20 dernières années, comment est-ce que le musée a évolué au fur et à mesure des années ? Est-ce que du coup il y avait une première mission ? Qu'est-ce qui s'est mis en place ?
Le musée, déjà, il a fallu qu'il s'inscrive dans le paysage culturel parisien. Alors même que beaucoup de voix s'étaient élevées en 2006 et avant encore, au moment du projet, contre l'idée de placer des arts extra-européens au même niveau que les arts européens. Donc d'abord, il a fallu ancrer sa légitimité. Et sa légitimité, il l'a très rapidement eue déjà parce qu'en fait, il y a toute une communauté de grands penseurs qui se sont associés au musée. Claude Lévi-Strauss était encore vivant et a inauguré le musée. Quelqu'un comme Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, est venu à l'ouverture du musée. Et tout cela a réussi à asseoir le musée dans un paysage muséal national pour lui donner une sorte de légitimité. Et puis, c'est à travers les expositions, à travers les spectacles, à travers des expositions qui ont vraiment fait date, que ce soit Tatoueur tatoué, quelque chose qui n'avait jamais été vu, c'est vraiment la vision de tatouage à travers le monde, ou alors des expositions un peu plus corrosives, comme l'exposition sur Tarzan, ou des expositions qui regardent avec un regard assez nu l'histoire coloniale de la France. Je pense à Mission Dakar Djibouti qui a été exposée l'année dernière, en 2025. Toutes ces expositions qui font aussi l'histoire de lieu et qui ont donné à voir notre identité multiple.
Et pour faire le lien, vous vouliez dire quelque chose ?
Non, peut-être que s'il y a un mouvement en particulier d'évolution qui a cité, c'est celui d'ouverture aussi, et de dire que tous les projets que mène le musée du Quai Branly aujourd'hui, que ce soit donc les expositions que vient de décliner Angélique ou aussi les projets de recherche, sont des projets qui sont menés aujourd'hui à plusieurs voix, qu'on nomme polyphoniques ou multivocaux, On réunit autour de la table, dès la genèse des projets, les représentants des communautés d'où sont originaires les collections qu'on a. Donc c'est quelque chose de très très important aujourd'hui au musée, qui marque un peu l'évolution du musée ces 20 dernières années.
Ok. Et alors aujourd'hui, c'est les 20 ans du musée, on l'a abordé en introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous mettez en place pour le musée des 20 ans? Parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup en ce moment.
Alors les 20 ans, ça va être 3 jours de fête qui vont commencer la semaine prochaine, donc à vos agendas, vendredi 19 juin au soir, puis samedi et dimanche, en plus sans interruption, parce qu'on va avoir une nuit blanche de cinéma du samedi au dimanche, j'y reviendrai. Peut-être que William, tu peux parler un peu de la soirée d'ouverture du vendredi soir?
C'est une soirée d'ouverture donc, du festival qu'on a nommé Branly 20 ans, le festival, et qui doit être à l'image de ce qu'est le musée aujourd'hui, c'est-à-dire une soirée qui met à l'honneur toutes les cultures en dialogue et qui soit hyper festive. Et dans cette volonté d'hyper festivité, on a décidé de transformer le musée et de le métamorphoser et de l'utiliser dans toute sa potentialité, dans toutes ses dimensions, et voire de pousser les dimensions. Vous connaissez ou peut-être pas nos jardins, mais ils sont extraordinaires, ils sont très grands, et on a décidé d'y mettre 2 scènes. Et on a aussi eu l'audace de mettre une 3e scène sur le toit du musée. Et dans ces 3 espaces vont se succéder plusieurs artistes, des têtes d'affiche de renommée nationale et internationale.
Il faut les dire.
Il faut lesquelles? Les dire. Je vais dire lesquelles, j'y arrive. il va y avoir du rap, du rail, du reggae, de la variété. Okay. On a Oxmo Puccino qui vient, on a Danil qui vient, on a Balaké Sissoko aussi. Ouais. On a BCUC qui est un groupe survitaminé qui nous arrive d'Afrique du Sud. On a aussi TT. On a l'Entourloupe qui vient remixer un peu du reggae, des sonorités caribéennes de façon très, très pulsée. Mais on a aussi, voulu donner une dimension très plus dynamique encore à ces concerts et ne pas simplement se concentrer sur la musique. Et on aura donc des shows, des spectacles de danse, du drag aussi.
Wow, okay.
Et pour pousser la soirée jusqu'à ses potentialités les plus festives et les plus dynamiques, on va ajouter à ça des DJ sets qui vont saupoudrer un petit peu toute la soirée. Acide Arabe qui va clôturer notamment la soirée, et puis DJ Antoinette Boom, Lola Andikwa, Andy 4000.
Et par rapport peut-être aux autres moments que vous allez mettre en place?
Je veux juste citer que parmi les drag queens, il y aura quand même Mami Wata et Soa de Muse. Donc ne les ratez pas, parce que c'est quand même les plus grandes dragues de la scène française.
Je crois qu'on dit que ce sont les reines de France.
Ce sont des reines de France. Mais pour continuer, ça va être la soirée d'ouverture. Et ensuite, on va avoir un week-end samedi-dimanche gratuit. La soirée d'ouverture, comme vous voyez, c'est tout un tas de concerts. On appelle ça un peu Coachella sur scène. Elle est sur billetterie et il y a encore quelques places, donc précipitez-vous. Et les samedis-dimanches, ce sera Esprit Ultra Famille, tout public, avec tout gratuit, des activités, des jeux, des fanfares, des initiations sportives, des dégustations culinaires. Vraiment un programme ultra animé dans tous les espaces du musée, et une nuit de cinéma qui va commencer à 19h et qui va se terminer au petit matin le dimanche, et qui va être ouverte par Cédric Clapiche, qui nous fait l'honneur de venir nous parler de ce genre cinématographique qui s'appelle le Coming of Age, qui est en fait le passage à l'âge adulte, ce que nous faisons avec nos 20 ans.
Ok. Il nous reste très peu de temps. Peut-être un mot sur la volonté générale que vous voulez, du coup, à travers ces 20 ans. Vous aviez dit que c'était très vitaminé, très festif. Est-ce que c'est ça le message que vous voulez faire passer, du coup, aux visiteurs qui viendront?
Absolument. Dire que le musée du Quai Branly est un lieu qui est ultra vivant aujourd'hui et qui se veut hospitalier, et qui est hospitalier pour tous les types de publics. Et c'est aussi avec cette boussole-là qu'on a construit la programmation dans toute sa diversité.
Et c'est un lieu surtout pluridisciplinaire, ce que ne dit pas forcément le mot musée, mais c'est pour ça qu'on a voulu du cinéma, de la danse, de la musique. C'est un lieu, en fait, n'importe quel point d'entrée peut vous amener au musée. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas des gens de musée, qui aiment plutôt aller à un concert, qui aiment plutôt même passer du temps dans des jardins, comme les nôtres. C'est pour ça qu'on a voulu les mettre en valeur. Et c'est ça qu'on veut montrer. On est une cité culturelle, on est un lieu de vie. Et donc, peu importe le point d'entrée, venez au musée du Quai Branly Jacques Chirac.
Et l'idée, c'était de prendre justement cette interdisciplinarité et de pousser les curseurs au maximum, voire au-delà de ce qu'on a jamais fait.
Très bien, très intéressant, on y sera. on va devoir clôturer cette interview. On n'a pas eu le temps de parler de vos métiers. Malheureusement, c'est toujours trop court sur Radio Campus, mais très intéressant. Et c'était l'idée que vous veniez pour parler des 20 ans principalement. Angélique et William, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Merci. Votre présence nous a permis donc de revenir un petit peu sur les 20 années d'existence du musée et sur ce que vous allez mettre en place pour les 20 ans. Et pour terminer ce Zoom, je ne peux que conseiller à nos chers auditeurs qui pourraient être intéressés par les animations mises en place à l'occasion des 20 ans du coup de ce musée, à ne pas hésiter à y faire un tour les week-ends du 19, 20 et 21 juin.
Merci.
Merci.
Merci à Angélique, merci à William, merci bien évidemment à Laetitia. Bad Moon de Thérèse sur la platine numérique. Cette chanson de Thérèse, Bad Moon, nous allons tout de suite enchaîner avec la chronique livre. C'est tout de suite.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Ce soir, place au regard de notre chroniqueuse sur l'immense Marjane Satrapi, une femme, un crayon, une révolution. C'est avec vous, Violette.
Bonsoir. Alors, je commencerai cette chronique par les mots que Marjane Satrapi prête au personnage de sa grand-mère dans Persepolis. Il n'a rien de pire au monde que l'amertume et la vengeance. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Le 4 juin s'est éteinte une femme qui, sans le savoir, a fait partie de ma vie. Discrètement, ces mots, aussi bien que ces images, se sont faufilés sous mon oreiller, derrière mes rideaux, mon armoire, pour que jamais je ne cesse de croire. Comment faire de l'expérience d'un déchirement un élan poétique, à la fois provocateur et ingénu? Marjane Satrapi était tout ça à la fois. J'envie parfois la répartie de ses personnages. Timidement, j'aimerais oser hausser la voix comme eux. Leurs faiblesses, quand ils en avaient, furent les lieux de rencontre entre vulnérabilité et espoir. La vie est faite de petits problèmes, de petits bobos, insidieux et perfides. Ce sont eux qui nous ont à l'usure. Et c'est aussi cela que j'ai appris. Notre salut tient à ce bric-à-brac, façonné de nos mains et nos cœurs, qui nous aide à vivre, à mieux vivre. Marjane Satrapi le disait elle-même, « La politique m'emmerde, mais je ne peux pas me taire. » Ne pas céder au renoncement. Se complaire est plus facile, il est vrai, mais on a toujours le choix, lançait à la volée sa grand-mère, dans un élan de colère. à celle qui n'a pas voulu défroquer ou désinvestir tout espoir des générations d'enfants comme la mienne, à celle qui a toujours cru en l'éducation afin de faire fleurir notre humanité, afin que les petites filles se débarrassent tant bien que mal d'un joug invisible et inodore, je souhaite dire merci. Il faut du courage pour être libre. Chaque chose a un prix. L'exil en est un. Cette forme de désintégration sociale est sans doute une des épreuves les plus rudes, car elle implique le sentiment douloureux et agréable d'un retour qui n'en est jamais vraiment un. D'ailleurs, c'est ainsi que débute Persépolis. C'est dans un espace d'entre-deux, à l'aéroport d'Orly. Et cet impossible, permettez-moi le néologisme, est le fondement de nombreuses histoires, où l'aporie détient le rôle principal. Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais, déclare un de ses personnages. Au final, c'est ce que nous chuchote Marjane à chaque fois que nous lisons ou regardons une de ses œuvres. Elle nous rappelle sans cesse, par son travail, qu'il est plus judicieux de se faire roseau que chêne.
Voilà, merci, merci à toi, parce que il faut le dire, cette dame a fait beaucoup pour faire évoluer, bien évidemment, les mentalités, surtout concernant l'humanité. Il faut remercier le travail qu'a effectué cette dame. Nous allons cette fois-ci mettre un thème à la matinale de ce jour. Madame, messieurs, je remercie très très rapidement Vladimir, Laetitia, Fabien, Fantomas, Fanny et toute l'équipe qui a concouru à ce que cette émission se passe sous les meilleures formes possibles. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour lundi prochain, pour le prochain matinal de 19h. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.
Écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org.